Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale. Et aujourd'hui, on parle des conseils de développement qui sont des lieux de démocratie participative. On a discuté avec Pauline Chauveau qui est étudiante et citoyenne associée au conseil de développement. Vous en saurez plus dans quelques instants. Enfin, pour terminer cette émission, c'est Léo qui nous propose un reportage. Il était samedi dernier de bonne heure en compagnie des jeunes militants et militantes de Youth for Climate. Ça sera donc pour la deuxième partie de cette émission et je vous propose qu'on commence sans plus tarder. Les conseils de développement ont été créés en 1999 dans le but d'être des outils de démocratie participative. Lieu d'échange et de réflexion, ils sont force de proposition dans l'objectif d'éclairer les choix des élus sur les politiques à mettre en œuvre. À Angers, les évolutions législatives de 2018 ont amené à la refonte des conseils de développement d'Angers-Loire Métropole et de Pays-Loire-Angers, qui sont devenus un conseil unique appelé Loire-Angers. L'appel à candidature pour le prochain mandat de 2021 à 2024 est ouvert jusqu'au 1er mars. Et pour en parler, je suis avec Pauline Chauveau, citoyenne associée au conseil de développement. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce rôle de citoyenne associée et toi, depuis combien de temps tu t'es lancée là-dedans ?
Alors moi, je me suis lancée dans le conseil de développement en septembre 2019. Donc j'étais étudiante en licence à la fac de Géo et donc mon emploi du temps me permettait de m'investir dans une organisation. Et donc voilà, en tant que citoyenne associée, j'ai pris part à cette organisation, le conseil de développement Loire-Angers, pour y partager mon point de vue, alors particulièrement moi sur le projet de territoire intelligent. Donc, comme vous l'avez évoqué, c'est pour apporter un regard extérieur, son avis sur les politiques et les projets menés par les collectivités. Et donc, voilà, partager son point de vue, il y a d'autres sujets de traiter, mais c'est vraiment en tant que citoyen associé, venir apporter sa contribution, son regard sur les projets.
Tu as une idée quand même de combien vous êtes dans le conseil de développement, alors que ce soit les membres permanents ou les citoyens, citoyennes associés?
Alors, on est environ 120 membres, enfin, compris les citoyens associés et les organisations.
Comment ça se passe alors? Est-ce que, alors qu'on soit membre ou citoyen, citoyenne associée, comment est-ce que ça se passe en termes de fréquence de vos réunions, des sujets que vous abordez? Est-ce que c'est toi qui vas choisir à quelle réunion tu vas être présente?
Alors du coup, quand on s'investit en tant que citoyenne associée, on s'investit pour une séance de travail tous les mois environ, donc c'est des séances de partage, et on s'investit pour une thématique. Alors si on veut participer à plusieurs thématiques, c'est possible, donc pour chaque thématique, une commission par mois environ. Donc là, on peut soit avoir des séances de travail en groupe, ou alors on peut avoir des personnes qui viennent pour qu'on les interroge, des experts qui viennent nous éclairer sur un sujet, et également des témoignages de personnes, de membres présents et qui nous partagent en fait leur expérience. Et sinon, on a également dans l'année une à deux assemblées plénières où on présente nos contributions.
Donc là, par exemple, sur les aspects dont tu parlais autour du territoire intelligent, qu'est-ce que ça peut être sur les sessions que tu as pu faire, sur la manière dont vous abordez ces thématiques, les personnes que vous voyez?
Alors, première partie du travail, ça a été vraiment de définir pour nous qu'est-ce qu'était le territoire intelligent. C'est vrai que c'est un peu complexe, donc pouvoir s'approprier le sujet. Et donc là, on a fait appel à des savants du sujet, des experts, des personnes en conférence. On a également fait appel aux élus de la ville d'Angers-Loire Métropole pour nous présenter leur sujet, les questionner dessus. Donc ça a été déjà une première partie du sujet. Et puis après, on va creuser un petit peu, nous, comment on va pouvoir apporter notre point de vue. Donc moins sur l'aspect technique du projet, mais plutôt sur le côté social, en fait, développement, qu'est-ce que nous, on va pouvoir apporter de notre point de vue. Et donc, on se renseigne un peu, je ne sais pas si vous connaissez le design de service, des choses comme ça, comment travailler sur des... On va se renseigner sur des sujets pour pouvoir développer ensuite des propositions.
Et ces propositions, donc après, vous les présentez lors des assemblées plénières. Quelle forme est-ce que ça prend? Et ensuite, est-ce que vous savez ce qui advient de ces propositions et d'une manière générale, à quel point vous êtes relayé ensuite auprès des élus.
Ces propositions sont inscrites dans des contributions, donc des rapports écrits qui sont présentés ensuite au maire-président. Donc là, le territoire intelligent est focalisé sur Angers-Loire Métropole, donc au maire-président Monsieur Béchu. Et donc on a une présentation orale devant lui, donc en assemblée, et après ce document, ce rapport papier est relayé dans les services de la collectivité. Les rapports donc de toutes les contributions, donc pas seulement territoire intelligent, comme je le disais, diverses thématiques sont abordées, que ce soit l'environnement, l'aspect économique, les mobilités, sont à retrouver sur le site du conseil de développement, donc plein de ressources mises à disposition.
Depuis que toi tu es dans le conseil, est-ce que des travaux que vous avez menés, on peut déjà les trouver justement sur internet? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà proposées ou est-ce que ça viendra un peu plus tard?
Notre première contribution sur le territoire intelligent vient d'être finie en rédaction et donc elle va être diffusée prochainement. Voilà, elle a été approuvée en assemblée donc hier, donc elle va être diffusée prochainement.
Et pour qu'on puisse un peu se faire une idée, est-ce que tu sais à peu près combien on trouve de commissions différentes sur des thématiques
Alors actuellement, on a 3 commissions, une sur environnement et projets partagés. Donc là, c'est vraiment échanger comment intégrer l'environnement lorsqu'on fait un projet, comment dialoguer avec les acteurs. Ensuite, on a une commission sur l'accessibilité aux services. Donc ça, c'est une deuxième thématique, et territoire intelligent. Après, on a d'autres contributions précédentes qui sont reprises pour être actualisées. Et donc, on en a une également sur l'économie, l'emploi. Donc là, on peut chambouler avec la crise sanitaire. Donc une régulation également, mise à jour des propositions.
Même pour vous, j'imagine que sur l'année 2020, ça a dû vous pousser à vous adapter un peu sur vos manières de travailler.
Oui, effectivement, le travail a été un peu adapté. Donc en fonction des mesures en place, au début, une mixité à la fois en présentiel et en visio, on mixait les deux modes. Et puis voilà, depuis quelques mois maintenant, tout à distance, en visio. Donc voilà, une mobilisation qui continue des membres, des citoyens pour faire avancer les projets et un bon dynamisme, une réelle motivation. Hier en assemblée, on était 90 environ, donc c'est vraiment montrer encore la mobilisation même à distance, malgré que ça soit quand même, on va pas le nier, complexe de travailler toujours en visio pour animer aussi des dispositifs participatifs. Et c'est ça aussi qui fait la force du conseil de développement et qui me fait plaisir également, c'est qu'on a des échanges conviviaux, voilà, c'est basé sur la convivialité, le partage, et un peu freiné à distance, mais on arrive quand même à maintenir ces liens qui sont importants.
L'appel à candidature pour le prochain mandat, donc qui va de 2021 à 2024, est ouvert jusqu'au 1er mars. Est-ce que tu sais si ça concerne uniquement les membres permanents ou également les citoyens et citoyennes associés?
Alors jusqu'au 1er mars, ce sont les représentants d'organisations qui peuvent candidater ou des citoyens à titre individuel qui s'engagent en tant que membres. Et à partir de l'été prochain, une fois que le nouveau conseil sera installé et que le programme sera établi, donc là, des citoyens associés pourront également candidater et donc sur les sujets de leur choix pour un an.
Toi, ton engagement, jusqu'à quand il va aller, et est-ce que tu penses le renouveler ou à terme devenir membre permanente ?
En tant que citoyenne associée, j'ai pris plaisir dans cette organisation. Le projet de territoire intelligent, nos discussions ne sont pas achevées dessus. Initialement, c'était prévu pour durer un an. Et en fait, là, c'est un projet vaste sur lequel on peut apporter encore des contributions. Donc, mon engagement va se poursuivre sur ce sujet. Et donc, j'ai pas encore établi si j'allais poursuivre en tant que membre ou citoyenne associée. En tant que membre, on s'engage pour 3 ans. Donc étant étudiante, c'est là où c'est peut-être un peu plus compliqué de s'engager sur 3 ans, et en étant citoyenne associée, voilà, on porte le même engagement mais sur une durée plus réduite, et ce qui peut permettre de s'engager sur un temps plus court et donc plus facile pour nous.
Est-ce que tu sais s'il y a des conditions particulières qu'il faut respecter pour répondre à cet appel à candidature?
Je pense qu'une des premières conditions, c'est d'être motivé et de vouloir adhérer à cet esprit de partage, d'échange, vouloir apporter son regard extérieur, également être ouvert à l'écoute, écouter les autres, les propositions, et puis voilà, participer aux réunions de manière active est une principale condition pour adhérer, enfin, et pour participer au conseil de développement. Une deuxième condition aussi importante, c'est de vivre ou de travailler sur Angers-Loire Métropole ou Anjou-Loire-et-Sarthe ou Loire-Léon-Aubance.
Pour toi, alors pour la suite après, quand est-ce que ça sera vos prochaines réunions? Est-ce que tu connais déjà un peu les prochaines questions, les prochains thèmes que vous allez aborder au sein de ces questionnements autour du territoire intelligent?
Alors autour du territoire intelligent, il y a deux thèmes qui nous animent particulièrement en ce moment. C'est à la fois l'évaluation du projet territoire intelligent, comment associer les citoyens à cette évaluation, développer un dispositif participatif d'évaluation, et également en parallèle un deuxième sujet sur les nouveaux services, nouveaux usages, comment innover avec le territoire intelligent, comment développer des nouveaux services. Et donc tout à l'heure je parlais de design de service, c'est là où on se renseigne sur le sujet, c'est comment pouvoir développer des services accessibles à tous, travailler sur l'ergonomie des sites, sur les applications, donc comment développer de nouveaux services pour qu'ils soient accessibles à tous, c'est aussi un point qui nous intéresse en ce moment.
Est-ce que tu voudrais ajouter un dernier mot pour inciter peut-être les auditeurs et auditrices à se pencher un peu sur ce que fait le Conseil de développement et pourquoi pas postuler à cet appel à candidature?
Un message à partager, c'est vrai que le Conseil de développement est animé par ses membres, donc c'est du bénévolat et un échange, vraiment un investissement. Et ce qui est important, c'est que pour que ce Conseil de développement vive, c'est important d'avoir une mixité, d'être une mixité aussi générationnelle. Et je pense que c'est important aussi qu'il y ait des organisations jeunes qui participent au Conseil de développement. Donc c'est aussi un appel à la jeunesse pour participer au Conseil. Voilà, sur les thématique qui vous intéresse, c'est également le lieu de rencontre, d'échange, donc rencontrer des acteurs qui peuvent aussi dynamiser des activités et avoir un échange en retour aussi.
Merci beaucoup Pauline d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions.
Merci beaucoup à vous.
De retour dans la Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. À l'instant, c'était Ham Hittin, titre de Sami El Enani et Dampé. On va approcher tranquillement de la fin de cette émission, mais avant cela, on va tout de même écouter le reportage réalisé par Léo. Il s'était enquéri d'une action organisée par des militants et militantes de Youth for Climate pour mettre en lumière notamment l'exploitation des Ouïghours par une partie de l'industrie de la mode. On écoute ça tout de suite.
Si vous étiez en train de faire des achats ou simplement de vous promener du côté d'alors Le Neubveu et de la place du ralliement samedi 13 janvier, et encore plus si vous faisiez la queue pour rentrer chez Zara, peut-être les avez-vous croisés ou avez discuté avec eux. Ils et elles, ce sont des militants et militantes de Youth for Climate, un mouvement de jeunes mobilisés pour la justice climatique et sociale qui s'engagent aussi dans les luttes.
Forcément, en fait, le social, c'est lié à l'écologie sur un nombre de sujets innombrables. Quand on a pris connaissance du génocide ouïghour, en fait, on ne pouvait pas ne rien faire. On a directement réfléchi à une sorte d'action.
Ce jour-là, c'était la question des Ouïghours qui faisait l'objet de leur action. Mais de quoi parle-t-on ? Les Ouïghours, ce sont une minorité musulmane présente en République populaire de Chine. Ils sont majoritaires dans une région de l'ouest du pays, le Xinjiang. Cela fait plusieurs décennies que les dirigeants chinois successifs s'en prennent à cette minorité. Une partie d'entre elles s'est organisée politiquement dans un parti, le PITO. Le but, soulever les populations chinoises contre le pouvoir. Objectif évidemment inaudible pour le parti, qui d'ailleurs réagit par la répression. Si bien que des militants du PITO basculèrent dans le terrorisme. Le vrai tournant, c'est 2009. La suite d'une émeute entre Ouïghours et Han, la majorité de la population chinoise, le gouvernement accentua sa politique de répression. Arrestation, internement, disparition.
C'est Youth for Climate Paris qui a une idée d'action étiquette et qui s'est propagée rapidement dans plusieurs villes de France. Donc on a commencé à faire des actions étiquettes dans les magasins pour sensibiliser les consommateurs. Et après on a poursuivi avec des actions de sensibilisation pour parler directement aux gens, pour plus expliquer, parce que c'est vrai que des étiquettes, ça informe, mais c'est pas forcément complet.
Ces actions sont simples, encore fallait-il y penser. D'abord de l'information. Devant les files de personnes attendant dans les rues à l'entrée des magasins, avec une explication orale des motivations et la distribution de tracts énumérant les marques que Youth for Climate appelle à boycotter. Deuxièmement, à l'intérieur des magasins, un coup d'agrafe. Pour ajouter à l'étiquette prix une étiquette de sensibilisation à ce combat.
Il y a déjà des actions que vous avez faites qui sont pas trop bien passées, avec des vendeurs ou même des clients qui vous disaient on comprend pas trop pourquoi vous luttez. Et qu'est-ce que vous risquez juridiquement ?
Juridiquement, pas grand-chose. Nous, nos actions de sensibilisation, on bloque pas les magasins. Comme ça, on est juste devant, on informe. Comme ça, les magasins, en fait, ils peuvent pas dire grand-chose. Cet été, on avait fait à H&M. Le gérant du magasin n'était pas content du tout. Et ils essayaient de nous prendre en photo, etc. Ils ont appelé la police. La police est venue, mais clairement, en fait, ils ne pouvaient juste rien faire parce qu'on était juste sur la voie publique, on gênait pas, on parlait juste aux gens et clairement, en fait, il n'y avait rien. L'étiquette non plus, on risque rien parce qu'en fait, il n'y a pas de dégradation. C'est pas sur le vêtement, c'est sur l'étiquette. Il y a déjà des personnes donc, qui se sont fait prendre par des vendeurs et vendeuses qui étaient d'accord avec nous. Ils disaient, bah, je suis d'accord, en fait, genre, merci de faire ça. Mais moi, j'ai mon travail actuellement, là, je suis là, genre, je suis obligée de vous dire de partir. On va pas forcer non plus si le vendeur ou la vendeuse nous demande de partir, bah, on part, on va pas chercher le conflit non plus.
Niveau soutien populaire, comment ça se passe ?
Niveau soutien populaire, on a beaucoup de soutien. Sur les réseaux sociaux, il y a plus des gens sensibilisés et engagés qui nous suivent. Donc forcément, on a beaucoup de soutien à ce sujet-là. Il y a aussi des personnes, quand on sensibilise, qui nous soutiennent, que oh, merci ce que vous faites, c'est génial et tout. Après, qui rentrent dans le magasin et qui achètent. Mais bon, après on se dit aussi que la prise de conscience, forcément ça va pas être en 2 minutes parce que t'as entendu un discours, mais on veut être la graine qui s'installe dans la tête des gens pour que ça, la prise de conscience arrive petit à petit.
Et les outils de communication, t'as parlé des réseaux sociaux, c'est l'endroit où il faut être pour mobiliser peut-être des jeunes qui sont plus optimistes dans la cause et qui croient plus dans le combat que des personnes peut-être plus âgées et qui sont habituées à vivre.
Oui c'est ça, en fait nous on est un mouvement de jeunes donc on touche plus les jeunes. Et aussi ce qui est bien c'est quand on est jeune, il n'y a pas encore des habitudes qui sont prises. Les habitudes sont beaucoup plus facile à changer. Quand on consomme dans les magasins, qu'on va s'acheter des choses. Pour les jeunes, ça fait 2-3 ans qu'ils achètent eux-mêmes des choses, c'est plus leurs parents qui achètent des choses. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup de posts explicatifs pour aussi sensibiliser sur les réseaux sociaux, sur plein de sujets différents. Il y a aussi, on est principalement sur Instagram, il y a aussi Facebook et Twitter qui touchent des personnes, des populations un peu plus âgées, mais on a aussi des personnes âgées qui nous écoutent et qui trouvent et qui sont aussi motivées que les jeunes. Et c'est vrai que c'est un peu motivant de voir ça aussi.
J'ai l'impression que là par exemple aujourd'hui quand on parle avec les gens, en fait on va parler à une mère et à la fille, et en fait c'est la mère qui va dire bah oui bah ma fille elle connaît mais moi je connais pas, en fait. Juste ça, c'est que les parents ils sont conscients mais ils écoutent pas vraiment leurs enfants qui eux savent. J'ai aussi l'impression que les personnes, par exemple les parents, ils vont être un peu plus passifs à ça, ils vont être un peu moins dans la réaction et dans le j'agis, bah j'y vais pas. Donc, du coup j'emmène pas ma fille acheter à Zara par exemple.
Quand on est jeune c'est les premiers trucs comme ça qu'on entend et oui ça nous indigne, donc oui on se louche parce qu'on trouve pas ça normal.
La question ouïghour est délicate à bien des égards. D'abord, sur la qualification de la situation de cette minorité. Hors de Chine et dans les pays occidentaux en général, le traitement des Ouïghours est assimilé à des pratiques d'internement, de travail forcé, de torture, voire de génocide. En Chine, là où l'information est d'ailleurs très majoritairement contrôlée par le parti et l'accès aux réseaux sociaux très restreint, c'est le discours des autorités qui fait foi. Des camps d'éducation et de formation professionnelle pour des gens assimilés à des terroristes. Comment informer la population chinoise de cette situation ? Ensuite, d'un point de vue politique, les pays occidentaux sont partagés, notamment en Europe. Comment sanctionner un pays pour ses affaires intérieures ? Comment pousser les autorités à stopper ces agissements tout en continuant à entretenir avec elles de bonnes relations ?
Actuellement, changer la mentalité de la Chine, je pense que ça va être très compliqué parce que c'est un pays qui est refermé et qu'on a vraiment très peu d'impact sur eux au niveau du monde entier.
Même les... Et il n'y a pas de réseaux sociaux, sinon enfin, il y en a très peu. On peut passer par éventuellement WeChat, mais Instagram c'est inaccessible et l'information est contrôlée à la fois par le Parti communiste chinois et par le quotidien du peuple. Donc ça réduit vraiment les possibilités de faire bouger.
Oui, c'est ça, ils sont coupés en fait du reste du monde un peu. Enfin, c'est volontairement par le gouvernement chinois coupé du reste du monde. Les camps de rééducation, comme ils disent, on apprend aux Ouïghours à ne plus croire à leur dieu, mais croire au Parti communiste chinois. Les Chinois grandissent comme ça et vivent comme ça, ils sont endoctrinés. C'est pas nous qui allons changer leur mentalité sur un endoctrinement qui est là depuis leur plus jeune âge en fait. Nous, c'est les pays occidentaux, on peut avoir un impact sur la Chine parce que c'est un des plus grands exportateurs au monde. C'est nous, avec notre argent, si on décide d'arrêter de financer telle marque, il y a des marques qui ont dit « Ok, on va essayer de s'engager à ne plus travailler avec eux », mais c'est pas directement par la marque parce qu'elles ont travaillé avec des filiales. Il y a des commandes qui ont été faites, donc ça va être sur du long terme. Ça va être beaucoup plus d'un an pour qu'il y ait vraiment que le travail Ouïghour s'arrête dans ces marques-là. C'est du combat de marque en marque sur du long terme pour qu'elles arrêtent de travailler avec les Ouïghours. Qu'on arrête de donner de l'argent aux marques qui savent qu'elles travaillent avec des Ouïghours et qui ne veulent rien changer, comme par exemple Nike. Aujourd'hui, vu que tout est lié à l'argent plus ou moins, c'est notre seul impact et levier pour essayer d'avoir un impact dessus.
L'Europe, au mois de décembre, a signé un accord d'investissement avec la Chine. Donc il y a deux volets dans cet accord. Le premier, c'est des demandes de garantie au niveau de l'égalité des droits entre les entreprises chinoises et les entreprises européennes sur le marché chinois. Et aussi des incitations à respecter les normes dictées par le Bureau international du travail. Mais le problème dans cet accord, c'est qu'il n'y a rien de contraignant. C'est que des incitations. Dans ce cas, pourquoi est-ce que le Parti communiste chinois plierait quand bien même les entreprises auraient une prise de conscience ? Est-ce que ça risque pas de passer pour des accusations d'ingérence en fait dans les affaires chinoises ?
Faut que le peuple se mobilise et que l'ONU et d'autres organisations internationales s'appuient sur le sujet et se positionnent plus. Après, oui, en effet, cet accord qui a été signé en décembre n'est pas contraignant. L'accord de Paris n'était pas contraignant non plus. Au final, il y a 5 pays sur 196 qui ont respecté les accords de Paris. Donc là, est-ce que la Chine va respecter les accords de l'ONU ? Non, clairement non.
Donc le combat est encore long, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Plus qu'un réquisitoire sur les pratiques de consommation, qui consistent à acheter sans se soucier de la chaîne de fabrication, Youth for Climate informe et propose des alternatives, nombreuses, même du côté d'Angers.
C'est d'abord par exemple les friperies, il y a aussi les vide dressing et les vide greniers. Bon, actuellement c'est pas trop la saison, mais dès le printemps et l'été, là on peut en trouver plus, des vide dressing et des vide greniers. C'est vraiment, on peut trouver des choses super bien, et puis même il n'y a pas que des vêtements, donc on peut trouver plein d'autres objets aussi. Il y a aussi la location de vêtements. Sur Angers, à côté du ralliement, il y a un magasin qui propose des vêtements à louer. C'est plus pour des occasions où on ne va pas forcément acheter une pièce précise pour cette occasion-là, bah juste la louer. C'est beaucoup mieux que d'acheter par exemple à Zara un nouveau truc. Il y a par exemple les free shops à la Grande Ourse, donc qui était un squat sur Angers. Il y avait un free shop, donc c'était des dons de vêtements et c'était vendu à prix libre. Si t'avais besoin de vêtements et que t'avais pas d'argent nécessaire, bah tu pouvais le prendre gratuitement. Si tu avais juste trouvé un truc bien et que t'avais de quoi mettre de l'argent, bah tu mettais à la hauteur de ce que tu voulais. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est bien, qui est un peu égal pour tout le monde. La récup des amis, de la famille, je pense qu'on récupère tous les affaires de nos cousins, cousines, on leur repasse des choses. Les amis aussi, et vraiment faire tourner les associations. Aujourd'hui on a Emmaüs, la ressourcerie des biscottes. On a souvent des préjugés sur ça va être des choses de mauvaise qualité, etc. On peut vraiment trouver des pépites là-bas, il y a vraiment des choses bien. Et c'est vraiment, enfin, pour une après-midi entre amis, au lieu de faire d'aller à Zara et trouver des trucs, bon ok, allez là-bas, vous allez trouver des trucs déjà plus drôles, des trucs qui, par exemple, il y a des trucs c'est moche, tu te dis, ouais, tant tu rigoles plus, tu peux trouver des trucs beaux. C'est vraiment comme une chasse au trésor. Et c'est vraiment beaucoup plus du bon temps, et en plus, il n'y a pas d'autres fringues, donc tu peux trouver, il y a des livres là-bas, il y a de tout. Donc c'est vraiment, tu peux te faire une bonne après-midi, genre à Emmaüs ou la ressource sur des biscottes, où tu vas passer du bon temps avec des bons souvenirs, etc. Il y a aussi. Les sites de vente de seconde main, Le Bon Coin, sinon il y a aussi Vinted. On a forcément besoin de choses neuves parfois qu'on n'arrive pas à trouver au part. Il y a aussi la question des sous-vêtements parfois qui se posent. Les gens n'ont pas envie d'en acheter de seconde main. Et bah avec tout l'argent que tu auras économisé avec les alternatives, tu pourras aller vers des marques éthiques et locales pour les quelques habits neufs que tu voudras t'acheter ou autre chose neuve.
Les militantes et militants de Youth for Climate, qui agissaient à leur échelle ce samedi, ont la tête sur les épaules. Ils sont conscients que ces actions d'étiquetage et d'information impactent à l'échelle locale, et qu'il faudra bien plus que leur mobilisation pour faire bouger les lignes. Mais à 16, 18 et 20 ans, ils n'ont pas fait une croix sur l'espoir du monde d'après, expression qu'on a beaucoup utilisée pour parler d'économie, de politique et d'environnement. Mais les droits de l'homme ne doivent pas être oubliés.
Merci Léo pour ce reportage. Encore une fois, il va être quant à nous l'heure de nous quitter. Très belle soirée sur les ondes de Radio Campus Angers. On se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien.